Slate Podcast.
Bonjour, c'est Lucille Bélan. Tous les 15 jours dans C'est compliqué le podcast, je réponds à vos questions sur les relations humaines. Amour, amitié, sexe, bref, tout ce qui vous touche, vous fait souffrir et vous préoccupe. Cette semaine, nous entendrons le témoignage d'Oriane, qui a 26 ans, et s'est toujours sentie en décalage avec les autres. Elle s'est découverte hypersensible et s'accepte en tant que telle, mais a peur de ne pas mériter l'amour de son compagnon et souffre d'être souvent quittée par ses proches parce qu'elle n'arrive pas à exprimer ses sentiments.
Bonjour Lucille, je m'appelle Oriane, j'ai 26 ans. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un truc qui me suit depuis, j'ai envie de dire toute ma vie, c'est le fait de ne pas arriver à savoir ma place de partout, en réalité. J'ai toujours eu du mal à trouver ma place dans ma famille, parce que j'ai découvert mon hypersensibilité très tard, toute seule. Mais j'ai toujours su que j'étais différente, parce que j'ai toujours pensé différemment, parce que j'ai toujours ressenti les choses différemment, et que mes parents, malheureusement, m'ont fait aussi ressentir cette différence. Plein de personnes aussi m'ont fait comprendre que du coup, j'étais un peu étrange, et en fait, j'ai rapidement compris que j'étais hypersensible. Et même au sein du travail, même au sein de plein de choses, j'ai toujours du mal à un peu trouver ma place dans ce monde-là. J'ai pas la sensation de mériter, en fait, cette place, parce que j'ai très peu confiance en moi, parce qu'on m'a pas donné cette confiance, justement, quand j'étais plus jeune, et que, du coup, malheureusement, ça suit. J'ai été dans une famille très aimante, il n'y avait aucun problème pour ça, mais qui, du coup, a créé des blocages et des frustrations quand j'étais plus jeune du fait de me dire que j'étais différente. Souvent, on m'a dit « pourquoi tu pleures pour ça ?» ou des choses comme ça. Et puis même adulte encore, ça continue un peu à me suivre parce que je ressens toujours un gap énorme entre les gens qui font partie de ma famille et moi. Et j'ai toujours cette sensation d'être un peu rejetée. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à m'assumer dans plein de choses. Pourtant, je m'aime beaucoup plus qu'avant et j'ai appris que j'acceptais cette sensibilité, j'acceptais plein de choses chez moi, j'acceptais mes blessures que j'ai pu vivre, mais du coup, ça peut aussi me suivre dans mes relations amoureuses, ce qui est le cas encore aujourd'hui. Là, j'en parle aussi par rapport aux relations amoureuses parce que j'ai peur de ne pas mériter cet amour-là que j'ai avec ce garçon, qui est totalement différent de tous les garçons que j'ai pu avoir dans ma vie, qui, pour le coup, est une personne qui est très bienveillante, qui est très équilibrée et très douce. Et en fait, j'ai la sensation de ne pas mériter ce bonheur, du coup. Ça commence beaucoup à me peser, donc j'avais envie d'en parler avec toi. Merci de prendre le temps de peut-être de m'écouter. Et à très bientôt, peut-être.
Chère Oriane, c'est quoi notre place ? Et est-ce que c'est défini parce que nous sommes ou parce que les autres attendent de nous ? Est-ce que dans cette logique d'une place pour chacun, il reste un petit peu d'espace pour s'épanouir, changer, évoluer ? Ou est-ce que nous sommes obligés de rester toujours dans notre case sans jamais déborder ? Je crois que je me suis longtemps dit aussi que si j'avais le sentiment de ne pas être à ma place, ou d'être en décalage avec les autres, c'est que c'était de ma faute. Ça a duré des années. Pendant ce temps, on se conforme, on joue la comédie, on essaye de répondre les bonnes choses au bon moment, de donner une image qui rassure les autres et qui reste dans le moule. Je pense avoir fait ça une bonne dizaine d'années. À un moment, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune place pour être tout à fait moi, avec mes qualités et mes défauts, avec mes moments de joie et ceux de doute. Je n'étais jamais soutenue quand j'en avais besoin. Je devais rester sur mes rails. Et je souffrais tellement de chaque sortie de route, je culpabilisais et je refaisais les scènes mille fois dans ma tête. C'est une grande rupture qui m'a sauvée. Je ne dirais pas que je l'ai totalement choisie, mais à un moment dans ma vie, plusieurs personnes importantes ont juste disparu. Tous les témoins de mes années à faire semblant. J'avais devant moi une page blanche. Une page pour être moi. C'est là que j'ai décidé consciemment de ne plus mentir ou le moins possible. Il m'arrive encore de sourire quand je souffre, ou d'éluder des questions importantes et de m'empêcher ainsi de créer du lien avec des gens. Je fuis encore un peu, comme vous, mais je sais que je suis libre, sans cadre, sans rail. Ça veut dire aussi libre de changer, d'être différente d'un jour sur l'autre si j'en ai envie, d'avoir des besoins différents, d'aller mal aussi. Et j'ai trouvé des gens, ils sont peu, je ne vous le cache pas, qui m'acceptent tout à fait comme je suis. Je crois que vous pourriez avoir besoin d'accepter que la plupart des situations où vous vous sentez différente et qui provoquent une souffrance proviennent du fait que vous n'êtes pas toujours accompagné des bonnes personnes. Soit parce que celles-ci projettent sur vous des idées à l'opposé de ce que vous êtes aujourd'hui, soit parce qu'elles sont bloquées sur un passé qui ne vous correspond plus. Je suis convaincue qu'il n'y a pas de fatalité à souffrir tout le temps quand on est hypersensible. Cet état nécessite juste un tout petit peu plus d'ajustement dans la façon dont on compose son quotidien et son entourage. Il faut se dire qu'on adapte aussi le monde à soi, et pas l'inverse. Qu'on se préserve en se mettant en priorité dans des situations où on se sent bien et en confiance. Plus vous serez en confiance, et plus vous verrez le positif. Je sais qu'en tout cas, ça fonctionne pour moi. Il semble qu'il y ait déjà dans votre vie des gens qui vous aiment tout à fait tel que vous êtes. En apprenant à vous faire confiance, je pense que vous découvrirez qu'il est plus facile de leur faire confiance. Pour parler d'hypersensibilité, j'ai interviewé Céline Hervé-Bazin, coach thérapeutique, auteure, consultante, professeure et conférencière. Elle me répond au téléphone depuis Tahiti. Quand on est hypersensible, est-ce que c'est courant de se sentir différente et de ne pas réussir à trouver une place ?
Être hypersensible, c'est être connecté à tous ses sens. Donc du coup, on a des informations très vite sur tout, ce qui va nous rendre, différents. Parce qu'on va avoir, on va capter en fait plus de choses que la moyenne des personnes. Et le fait d'avoir de capter autant d'informations va nous rendre différents parce qu'on va percevoir intuitivement, inconsciemment ou consciemment ces informations. Et cette différence va faire que ce niveau d'information, on va être en décalage avec les autres. Donc, c'est complètement normal, dans un cas normal. Parce qu'être hypersensible, ce n'est pas forcément normal, mais voilà, c'est normal, oui.
Comment gérer son hypersensibilité au quotidien ?
Je dirais que le plus important, c'est de s'écouter, c'est de savoir se préserver. Donc, ça peut vouloir dire savoir s'isoler. C'est aussi savoir se concentrer sur des moments qui nous appartiennent, des moments de calme et des moments de joie. Pour moi, l'hypersensibilité, plus on la concentre sur la joie intérieure, ce qui nous apporte de la joie à nous, mieux on peut la gérer et surtout moins elle est lourde à vivre au quotidien.
Est-ce que c'est nécessaire d'essayer de changer ou est-ce que c'est pas mieux d'essayer de s'entourer de gens qui acceptent cette hypersensibilité ?
Oui, je pense que c'est inchangeable, l'hypersensibilité, surtout que ça peut être un énorme atout en fait dans sa vie. Donc quand on le transforme comme un atout, on peut mieux la vivre et beaucoup de personnes peuvent comprendre ce que c'est que l'hypersensibilité. Il faut apprendre à expliquer ce qu'elle veut dire au quotidien pour soi et dans leur rapport à l'autre. Et puis il y a plein de personnes qui sont ouvertes d'esprit, qui vont être comme vous, hypersensibles. Et du coup, ça permet d'être quand même dans un milieu plus harmonieux, plus apaisant pour vous. Et en plus, on assume son hypersensibilité. Donc, on est mieux dans l'acceptation de soi. Et puis, apprendre à se faire accepter par l'autre, c'est apprendre à la fois à recevoir qui on est et puis bien sûr à donner qui on est.
Dans les cas où les personnes ne se sentent pas acceptées, là en l'occurrence, la personne qui a témoigné pour le podcast ne se sent pas totalement acceptée par sa famille, est-ce qu'il vaut mieux prendre ses distances dans ces cas-là, quand les gens n'arrivent pas eux-mêmes à changer ?
Je pense qu'il faut apprendre à prendre à ses distances, surtout avec sa famille, parce que souvent, l'hypersensibilité, quand on grandit, on la cache, on développe des mécanismes pour l'éloigner de soi, pour la dissimuler, parce que les proches peuvent ne pas forcément la comprendre. Et en grandissant, là encore, ce que je disais, on peut apprendre qu'elle devient un atout, on va découvrir d'autres personnes qui vont être comme nous, on va découvrir des personnes qui vont mieux nous comprendre et qui on peut mieux s'accepter, donc il faut prendre des distances. Et souvent, ce dont je me suis aperçue, c'est que quand les personnes apprennent à prendre de la distance, à prendre du recul, à mettre ce cercle en fait, de prise de recul, la famille peut changer, notamment le cercle parental ou la fratrie. Et du coup, ça peut assainir les relations de manière assez miraculeuse.
Oui, parce que si on aborde ça de manière douloureuse, j'imagine que ça se nourrit aussi et que c'est une spirale en fait dans laquelle on ne sort pas.
C'est une spirale d'indifférence, de différence, de rejet, d'abandon, d'humiliation. Donc on va cultiver les blessures. Donc c'est pour ça que parfois, pour moi personnellement en tout cas, c'est important de savoir se séparer de ses parents ou de sa fratrie, parce que c'est souvent ça qui peut poser des problèmes à l'hypersensible. Donc, parfois, de mettre des temps de silence, des temps de géographie, c'est-à-dire des distances géographiques, pour ensuite rétablir la relation et revenir quand on va mieux ou quand l'autre peut-être a aussi fait un chemin de son côté pour que ça ait mieux le dialogue. Donc oui, la séparation peut être nécessaire.
Dans le cadre de la relation amoureuse ou dans la recherche d'un rapport amoureux, qu'est-ce que vous conseillez pour les personnes hypersensibles ?
Le dialogue, déjà, à la base, pour toute relation amoureuse, on dit que communiquer, c'est important. Je ressens pour moi que c'est important. Pour quelqu'un d'hypersensible, c'est encore plus important. C'est aussi faire comprendre à l'autre que s'éloigner ou que parfois, parce que l'hypersensible va souvent avoir des comportements de fuite, c'est d'expliquer que c'est pas forcément contre la personne, c'est pour soi. Donc c'est vraiment de comprendre, donc de communiquer. On a aussi tendance à se cacher, à pas dire, donc parce qu'on intègre tellement d'informations que donc au contraire, essayer de libérer la parole ou de demander un temps pour libérer cette parole, puis d'être simple en fait. L'hypersensible, on peut vite aller dans la complexité, s'enfermer dans des liens de complexité à l'intérieur de nous ou avec l'autre. Donc, de rester toujours simple, d'essayer de dire les choses. Alors là encore, c'est important de travailler sur sa communication avec bienveillance, ce qui, je pense, fait du bien pour tout le monde. Mais c'est vrai que c'est vraiment les prérequis, c'est vraiment essayer de communiquer, de garder des moments de décompression seul, des moments d'interprétation seul. Et puis, bon, je pense qu'un hypersensible aussi, c'est quelqu'un qui a besoin de bien dormir. Donc ça, c'est aussi un élément important à expliquer dans la relation de couple.
Quels sont vos conseils de livres, séries télé, films, n'importe quel matériel culturel qui pourrait éclairer nos auditrices et auditeurs sur le sujet de l'hypersensibilité ?
Il y a plein de bouquins sur l'hypersensibilité. Ce que je dirais sur les livres, c'est qu'il faut quand même faire attention, qu'ils ont parfois tendance un peu à nous mettre dans une catégorie. Donc du coup, on va se cultiver dans sa différence. Donc je pense que c'est important d'accepter qu'on est aussi comme tout le monde, que enfin voilà, de pas se mettre dans une catégorie. En fait, le risque, c'est la victimisation de soi. C'est marrant parce que quand vous me posez la question, moi je pense au bouquin sur le nez, l'odorat, le livre qui est, je sais plus comment il s'appelle, qui est un livre en fait sur le parfum, voilà, qui est un livre qui parle en fait de l'hypersensibilité mais au niveau de l'odorat et en fait qui montre comment ça peut impacter la vie. Bon, l'histoire est terrible parce que c'est quand même l'histoire d'un meurtrier, mais j'irai sur ce genre de produits culturels, c'est-à-dire d'aller voir des produits culturels qui vont vous faire réaliser comment les sens vont augmenter des perceptions et donc vous faire réaliser qu'effectivement vous accumulez énormément d'informations qui vont vous faire saturer et qui vont vous faire avoir cette différence. Je pense aussi à la série documentaire de films sur les animaux où on voit les animaux vraiment dans un détail très très important. Enfin, les images sont assez incroyables, que ce soit sur les couleurs, les sons. Donc d'aller chercher en fait des expériences autour du son et des sens pour comprendre en fait que on a cette capacité d'intégration. Il y a beaucoup beaucoup de choses sur cette notion de qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité, mais j'irais moi plus sur l'expérience du sens, des sens pour essayer. Voilà. Sinon, bon, moi, je trouve que de regarder des vidéos d'animaux, en général, ça calme quand on est hypersensible, parce que l'animal, comme l'enfant petit, ne vont pas forcément avoir les filtres qu'on va devoir acquérir au fur et à mesure de notre éducation. Et donc, ça peut nous ramener en fait, à cette pureté de sentiment qui peut nous libérer, là aussi, nous faire du bien, nous donner un peu de baume au cœur quand ça remue un petit peu autour de nous.
Pour aller plus loin, je vous conseille cette semaine de découvrir ou redécouvrir le roman « La fille de la supérette » de Sakura Murata. Il est question d'une trentenaire qui s'épanouit dans une vie avec des interactions sociales codifiées et limitées et un travail simple dans une épicerie ouverte 24 heures sur 24 à Tokyo. En décalage avec les autres, mais aussi avec ce que la société attend d'elle, Keiko souffre et lutte pour retrouver son équilibre et sa sérénité. C'était C'est compliqué le podcast. Merci au merveilleux Benjamin Septem-Ours et Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage. Si vous aussi, vous voulez témoigner, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à c'estcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail c'estcompliqué@slate.fr et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir, laisser un commentaire ou en parler autour de vous. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.